Encore un très bon matin à vous tous. Et un grand merci à Jonathan, toute son équipe, pour ces chants de circonstances, ces chants réjouissants qui nous inspirent, qui nous encouragent, qui nous rappellent nos grandes bénédictions que nous avons reçues à travers notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors ce matin, je vous invite à prendre vos Bibles, s'il vous plaît, et trouver, on va considérer deux textes ce matin. Un qui se trouve dans Genèse chapitre 3, et ensuite nous allons regarder Matthieu chapitre 2. Et vous savez, encore une fois, nous sommes rendus à la période des fêtes. Bientôt, ce sera Noël. Je sais qu'il y a des enfants qui ont très hâte. Et dans notre monde aujourd'hui, il est tellement facile de manquer la vraie signification de ce temps de l'année. Je ne sais pas si vous avez constaté, mais depuis plusieurs années, si vous regardez votre télévision, Hollywood nous bombarde avec des films, de nombreux films où la personnage centrale, c'est qui? Le Père Noël. Et quand vous allez aussi dans les champs des centres d'achat, c'est la même chose. La vedette qui est dans les centres d'achat, c'est le Père Noël et c'est Lutin, bien sûr. Avez-vous remarqué que même dans le langage maintenant courant, il est plus populaire de souhaiter joyeuses fêtes au lieu de souhaiter joyeux Noël. Vous savez, si nous ne voulons pas être influencés par ce monde qui prône la magie de Noël au lieu du miracle de Noël, dont on a chanté tantôt à propos de cela, il faut retourner à la source. Et j'aime bien le dicton des Anglais qui disent « Jesus is the reason for the season ». Jésus est la raison pour la célébration de Noël. Alors, qu'est-ce qui est le plus important pour nous ce matin? Les cadeaux? Ou bien le cadeau, par excellence, le cadeau de Dieu? Les enfants s'émerveillent devant les cadeaux, mais nous, enfants de Dieu, sommes-nous émerveillés devant le cadeau de Dieu qui nous est venu à travers l'incarnation? Avons-nous la bonne attitude et aussi avons-nous la bonne réponse face à un tel miracle? Alors ce matin, comme je l'ai dit, j'aimerais considérer avec vous deux textes. Dans ce premier temps, Genèse chapitre 3, et on va lire à partir du verset 8. Je vous mets dans le contexte. Nous sommes dans le jardin d'Éden. Adam et Ève viennent de chuter, de pécher, en mangeant du fruit défendu. Et maintenant, au verset 8, nous dit ceci: ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. Et l'Éternel Dieu appela l'homme. Et lui dit: « Où es-tu ? » Il répondit: « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Verset 14. « L'Éternel dit au serpent: « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Et le verset 15, j'aimerais attirer votre attention, parce que c'est là que nous trouvons la première fois, la première mention justement de l'incarnation. Dieu va dire: je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui baisseras le talon. On ira maintenant au verset Matthieu chapitre 2, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 2. Et le verset premier. Et nous avons chanté justement à propos de cela. Jésus étant né à Bethléem, l'accomplissement justement de la promesse que nous avons dans Genèse chapitre 3 au verset 15. En Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Et tout Jérusalem avec lui, il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Il lui dit, à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Voilà. Et j'ai intitulé ce message « Venite adoremus ». Ça, ça vient du latin. Expression aussi qu'on trouve dans le chant célèbre de Noël « Peuple fidèle ». Et l'idée maîtresse de mon message ce matin, c'est que la naissance virginale de Christ à travers l'incarnation mérite une attention particulière et une réponse particulière, surtout de la part des enfants de Dieu. Et ce matin, j'aimerais considérer avec vous trois aspects de ce miracle de Noël, l'incarnation. Alors, dans un premier temps, l'importance. L'incarnation à travers la naissance virginale de Christ mérite une attention particulière parce que cet événement est d'une importance capitale. Cet événement est d'une importance capitale. J'aimerais simplement vous donner la définition, justement, avant d'aller plus loin du mot incarnation. Le Petit Larousse définit le terme comme suit le mystère de Dieu fait homme en Jésus-Christ. Paul Haines, dans son livre Théologie, Introduction à la théologie, va nous dire ceci, le mot incarnation signifie dans la chair et désigne l'acte par lequel le Fils éternel de Dieu a pris sur lui-même une nature supplémentaire, l'humanité, à travers la naissance virginale. Et vous savez, dans la vie, nous portons une attention particulière aux choses qui sont importantes pour nous. Alors, vous savez, vous les femmes, vous allez chez la coiffeuse pour avoir une belle tête, hein, des beaux cheveux. Vous maquillez, vous faites attention à votre point. Pourquoi? Parce que votre apparence est importante pour vous. Et certains hommes, pas tous, mais il y a certains hommes qui vont aller au gym, qui vont faire des workouts, qui vont lever des poids et des haltères. Pour eux, pourquoi? Parce qu'être en forme, c'est important. Ils vont porter attention particulière. Et c'est la même chose à propos de l'incarnation. C'est important et nous devrions aussi y apporter une attention particulière. Mais comment est-ce que nous savons que l'incarnation est importante? Mais je vais vous donner deux raisons. Tout d'abord, à cause de la place qu'elle occupe dans les Saintes Écritures, la parole de Dieu. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est un thème majeur dont on fait constamment référence. Et je vais vous donner quelques références assez rapidement. Genèse chapitre 3, c'est le texte que nous avons vu ce matin. Après la chute, tout de suite, Dieu parle de justement la postérité de la femme qui allait venir dans ce monde pour justement régler le problème de notre péché. Genèse 49, où que Jacob est en train de bénir les 12 tribus d'Israël, il part du Shiloh qui allait venir et ce souverain à qui tous les peuples obéissent. Dans Deutéronome 18, Moïse va parler d'un prophète que Dieu va susciter parmi vous. Il a dit, vous l'écouterez. Dans Ésaïe chapitre 7 et Ésaïe chapitre 9, deux textes bien connus, le prophète ne laisse planer aucun doute à l'identité de ce personnage. Le beau texte, de verge viendra enceinte, elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Encore au chapitre 9, un enfant nous est né. On a chanté cela. Le Fils nous est donné et on l'appellera. Et vous avez des beaux titres. Admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Dans Michée chapitre 5, vous avez justement le lieu de sa naissance, Bethléem. Et on part de celui dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité, le Dieu éternel. Les évangiles aussi en parlent, et plus précisément l'apôtre Jean qui va nous dire ceci, tellement simple, mais tellement profond, la parole a été faite chair. Elle est habitée parmi nous. Les épîtres aussi en parlent. Nous avons dans Galates chapitre 4, où est-ce que nous parlons du Fils que Dieu nous a envoyé, né d'une femme, né sous la loi. Philippiens chapitre 2 nous dit qu'il était égal à Dieu, mais il n'a pas regardé son égalité à Dieu comme une chose à retenir à tout prix, mais il s'est tout dépouillé lui-même. Il a pris la forme d'un serviteur, il a paru comme un vrai homme, il est devenu semblable aux hommes. 1 Timothée 3 nous dit ceci, que Dieu a été manifesté en chair, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Et finalement, Apocalypse chapitre 1er, l'apôtre Jean, il voit une vision. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit le Christ glorifié, mais il prend la peine de nous dire, j'ai vu quelqu'un là qui ressemblait à un fils d'homme. Alors, comme je vous ai dit, à travers la parole de Dieu, l'incarnation, le fait que Dieu s'est fait homme est un thème majeur, un thème très important. Mais il y a une deuxième raison aussi pour laquelle nous devrions porter une attention particulière à l'incarnation. C'est le moyen par lequel Dieu a été glorifié. Nous chantons aussi, oui, on bénit Dieu pour l'incarnation. On bénit Dieu d'avoir envoyé son Fils. Mais j'aimerais qu'on prenne le temps ce matin de considérer l'incarnation du point de vue de Dieu lui-même. Et comme je dis, c'est le moyen par excellence par lequel Dieu a été glorifié. Si on retourne dans le jardin d'Éden, Genèse chapitre 3, pas besoin d'y tourner, mais juste en esprit, Dieu se trouve là maintenant, après la chute, devant Satan et devant l'homme Adam. Deux individus qui avaient tellement reçu de la bonne main de Dieu. Vous allez vous rappeler que Satan, avant de devenir cet ange déchu, son nom est Lucifer. Et la Bible nous dit qu'on l'appelle l'astre brillant, le fils de l'aurore. C'est un chérubin protecteur, couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoines, de topazes, de diamants. Un être éclatant, avec une position très élevée, le chef des hommes. Et malgré cela, comment a-t-il réagi à la bonté de Dieu par l'orgueil et par la rébellion? Ésaïe 14 nous dit ceci, il a dit ceci, « J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je serai semblable au Très-Haut. » Alors, au lieu de glorifier Dieu, Satan a rébellé. Et qu'en est-il pour Adam? Il avait reçu aussi la domination de la terre. Vous allez vous rappeler de cela, un environnement parfait, un beau jardin où est-ce qu'il faisait bon vivre. Dieu l'avait aussi créé à son image, à sa ressemblance. Adam avait reçu un beau cadeau, la capacité d'être en communion intime avec son Créateur. Et comment a-t-il réagi à tout cela? Lui aussi par l'orgueil et la rébellion, en mangeant du fruit défendu. Alors, jardin d'Éden, Dieu est en face de deux rebelles. Deux rebelles qui, par leur insoumission, ont terni la réputation de Dieu et qui, par leur geste, ont suggéré que Dieu n'était pas bon, qu'il n'était pas juste, qu'il n'était pas digne d'être obéi. Et quelle insulte, quelle injure, quelle atteinte à l'honneur et à la réputation et à la gloire de Dieu. Mais remarquons que dans le jardin d'Éden, dans Genèse chapitre 3, dans le contexte de la rébellion, apparaît pour la première fois la mention de l'incarnation. Où Jésus-Christ serait de la postérité de la femme, Et à travers l'incarnation, le Fils de Dieu, deuxième personne de la Trinité, égal à Dieu lui-même, va prendre une forme humaine. Philippiens numéro 2 nous dit ceci. Il s'est dépouillé lui-même. Il a pris une forme de serviteur. Et remarquez bien maintenant, en tant que serviteur, obéissant à l'Éternel, il a glorifié Dieu. Quel contraste avec Satan et avec Adam. Il a glorifié Dieu par une vie dépensée entièrement au service des autres. Il a dit à son père avant d'aller à la croix, je t'ai glorifié sur la terre. Et par sa mort, encore par obéissance, il s'est livré en sacrifice pour accomplir l'œuvre de la rédemption. Et comme je dis, quel contraste avec la rébellion de Satan et d'Adam. Quelle gloire apportée au Père. Sa réputation maintenant a été redorée. Sa crédibilité est restaurée. Et quelle joie et quelle satisfaction apportée au cœur de Dieu. Deux rebelles qui ont démontré par le geste et qui ont suggéré par leur geste que Dieu n'était pas bon et pas digne d'être obéi. Le Fils de Dieu, à travers l'incarnation, démontre par sa vie et par sa mort que Dieu est intègre, droit, juste et bon. Et quelle est la réponse de Dieu à cela, à le fait que son Fils s'est incarné? Mais vous savez le texte, le beau texte dans Philippiens chapitre 2, Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné ce nom qui est au-dessus de tout nom. Et Dieu a fait de lui le roi des rois et le seigneur des seigneurs, celui devant un jour tout genou va fléchir. Alors l'incarnation est importante aux yeux de Dieu, oui à nos yeux, on va le voir dans un deuxième temps, mais premièrement parce que Dieu a été glorifié à travers son Fils. Et ce matin, nous devrions aussi nous réjouir avec Dieu pour cela. Deuxième chose à propos de l'incarnation. Son importance, mais aussi son application. Son application. Si nous retournons encore dans Genèse chapitre 3, dans le contexte de la rébellion, dans le contexte d'où est-ce que Dieu, pour la première fois, mentionne que son Fils allait venir et la postérité de la femme, nous sommes pas seulement dans un contexte de rébellion d'Adam, mais nous sommes dans un contexte de méfiance. Quand Dieu a appelé l'homme et il a dit, où es-tu? Il a dit, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Et plus tard, quand Dieu lui demande, mais qu'as-tu fait? As-tu mangé du fruit défendu? Il a dit, la femme que tu as mise auprès de moi, c'est elle qui est responsable. Dans d'autres mots, il accuse Dieu justement pour sa chute. Et il est en train de dire que je ne peux pas te faire confiance. Je me méfie maintenant de toi. Et vous savez que depuis ce temps-là, c'est la fléau de l'humanité. Cette méfiance enracinée dans le cœur, cette résistance, cette difficulté à faire confiance à Dieu. Et l'exemple classique, vous l'avez dans les enfants d'Israël qui ont été délivrés de la dure servitude en Égypte. Dieu leur a donné un bon leader dans le personnage de Moïse. Il a pourvu à leurs besoins, leur donnant de la main du ciel, de l'eau, du rocher. Il les conduisait vers un pays où coulait le lait et le miel. Et pourtant, dans Psaume 78, nous lisons ceci, « Ils ne crurent pas en Dieu, ils n'eurent pas confiance en son secours. » Israël aussi, un peuple méfiant, rebelle, qui manque de confiance en vertu. Et je suis certain que ce matin, si nous sommes honnêtes, nous ne sommes pas différents. Combien et trop souvent, je parle pour moi-même, mais trop souvent, malgré tout ce que Dieu a fait pour nous, comme Israël, nous sommes caractérisés par la méfiance. Parfois par la rébellion, la manque de confiance. Alors l'incarnation va apporter, si nous prenons le temps de considérer attentivement l'incarnation, elle va apporter une solution à cette problématique. Et il y a trois aspects, je n'ai pas le temps ce matin de développer les trois, mais je vais en parler brièvement des deux, et ensuite on va focaliser sur la troisième. Alors l'incarnation, le fait que Dieu se fait homme, c'est la révélation la plus claire de qui est Dieu. Nous avons la création qui nous parle justement de la gloire et la magnificence et la puissance de notre Créateur. Mais dans le personnage de Jésus-Christ, qui est venu parmi nous, qui s'est incarné, qui s'est fait homme, qui a marché parmi nous, qui est mort sur la croix pour nous, nous voyons un Dieu de compassion. Combien de fois nous lisons dans les évangiles quand Jésus-Christ, face à la misère humaine, il est ému dans ses tripes. Il est ému de compassion. Et sur la croix, quand nous voyons le juste qui meurt pour les injustes, nous voyons un Dieu d'amour, digne de confiance. Deuxièmement aussi, l'incarnation nous apporte la restauration la plus célèbre. Vous savez, Dieu avait créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Mais si vous regardez aujourd'hui dans le monde, l'être humain est capable des pires atrocités, des choses abominables, inimaginables. Où est la ressemblance de Dieu? Mais en joignant la divinité avec l'humanité, Dieu affirme l'humanité. Et un jour, il va rendre tout ce qui croit en Jésus-Christ semblable à son Fils, lui en qui l'humanité trouve sa perfection. Alors, c'est la restauration la plus célèbre. On a eu des restaurations dans ce monde, on peut penser justement à Rome, au Vatican. Où est-ce qu'il y avait au plafond, il y a des fresques du peintre célèbre Michel-Ange. Des choses extraordinaires, mais qui, à travers les âges, ont été ternies par justement la pollution, ainsi de suite. Et en 1979 à 84, il y a eu une œuvre de restauration. Et le monde a été ébloui de voir la beauté, justement, des couleurs vives qui sortaient justement de cette peinture. Mais bien aimé pour nous, c'est encore mieux. Dieu va restaurer notre humanité dans le personnage du Seigneur Jésus-Christ parce que nous allons être semblables à lui. Mais la troisième chose, c'est comme je dis, c'est là-dessus que j'aimerais prendre un peu plus de temps, c'est l'identification la plus complète à travers l'incarnation. C'est une identification dans laquelle le Créateur est devenu un homme pour pleinement connaître et pleinement s'identifier avec la condition humaine. Une condition qui, depuis la chute, est caractérisée par la souffrance. L'apôtre Jean a dit ceci, je recite encore ses paroles, « La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. » Et à l'époque de Jésus, cela voulait dire qu'il est né, qu'il a grandi, il a vécu en tant que juif dans un pays qui subissait la cruauté et l'injustice à cause de la domination romaine. Ce n'était pas facile pour le Christ de venir dans notre monde. En 1962, le Florida Times a publié la journée de Noël, son édition justement de la journée de Noël, a été accompagnée par cette note de la part de l'éditeur. Pour rester dans l'esprit de Noël, seulement de bonnes nouvelles apparaîtront sur la première page. Pour un rapport détaillé de ce qui passe ailleurs, vous pouvez consulter la page 3, la page 4 et ainsi de suite. Alors, fidèle à sa promesse, la une démontrait le pape sur son balcon, en train de bénir la foule assemblée au carré Saint-Pierre. Il y avait le récit d'une église qui était venue en aide aux familles dans le besoin. Un autre article parlait des pèlerins qui rentraient à Jérusalem. Et bien sûr, il y avait une grande photo du Père Noël relaxant sur son patio, à côté de sa piscine, en train de réchauffer ses orteils au soleil. Les manchettes des autres pages lisaient comme suit: des hommes masqués dévalisent une banque à Chicago pour une somme de $100,000. Une père et 9 enfants périssent dans un incendie. Une guerre civile fait rage au Congo, etc., etc. Alors, on peut apprécier ce que l'éditeur essaye de faire. Pour le temps de Noël, on va oublier des mauvaises nouvelles, on va mettre l'emphase sur les bonnes nouvelles. Mais il a vraiment passé à côté de la traque en ce qui concerne la vraie signification de Noël. Parce que Dieu le Fils, né dans notre monde, et pas né dans un monde fantaisiste de bonnes nouvelles. Il est né dans notre monde, dans ce monde qui était aussi cruel, méchant et dangereux à l'époque qu'il est aujourd'hui. Comme quelqu'un a bien dit, pour le Fils de Dieu d'entrer dans notre histoire humaine, d'habiter parmi nous, comme quelqu'un a si bien dit, c'était un passeport pour la douleur et la souffrance. Je vous donnerai quelques exemples de cela. Rapidement. Il est né dans une étable. Il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Petit enfant, il doit s'enfuir avec ses parents parce qu'il y a une menace de mort. Il a grandi et vécu dans la pauvreté. Il a été rejeté par les chefs religieux qui cherchaient constamment à le faire mourir. Il a été mal compris par sa famille. Il a été trahi par l'un de ses propres disciples. Il a été renié par Pierre. Il a été abandonné par tous les disciples au moment où il avait le plus besoin d'eux. Il est exécuté comme un brigand. Il a subi la pire des humiliations en connaissant la mort la plus cruelle, horrible et dégradante jamais conçue par l'homme. Il a été abandonné par Dieu le Père. De la crèche jusqu'à la croix. Pour le Fils de Dieu de se faire chair et vivre parmi nous, voulait dire souffrir. Et Isaïe, le prophète, le dit si bien. Un homme de douleur est habitué à la souffrance. Stéphane Siemens nous dit ceci: l'incarnation nous démontre que Dieu s'identifie avec nous, qui soupire, qui pleure et qui souffre avec nous. Et ce matin, je ne sais pas où vous êtes en train. Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre? Peut-être vous vous trouvez dans l'épreuve. Peut-être vous l'avez vécu. Vous avez passé par un moment difficile en 2014. Peut-être vous la vivrez en 2015. Mais je sais une chose, il y a et il y aura toujours du secours venant de la part de Dieu incarné, Jésus-Christ. Le texte dans Hébreux 2:18 nous dit ceci: lui-même ayant souffert dans l'épreuve, il est capable d'aider ceux qui sont éprouvés par la souffrance. Hébreux 4:16 nous dit ceci: approchons-nous donc de son trône de grâce avec une grande confiance, avec une libre et joyeuse confiance. Dieu nous témoignera sa bonté et sa grâce et nous obtiendrons le secours nécessaire au bon moment. Bien-aimé, encore une fois, notre Dieu qui s'est identifié avec nous, qui soupire, qui pleure et souffre avec nous, est digne de notre confiance par ses gestes, il démontre qu'il est avec nous. Et Jésus n'est pas indifférent, insensible à ce que nous expérimentons dans un monde où la souffrance est une réalité parce qu'il s'est identifié à cette même souffrance. Et c'est pourquoi il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, parce qu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Et ça, c'est une preuve, justement, exacte et précieuse du fait que nous avons un Dieu à qui nous pouvons faire confiance. Il s'est identifié avec notre condition de misère à cause du péché qui est entré dans le monde et qui a amené tant de souffrances et tant de douleurs. Et quand nous sommes pris dedans, nous avons un souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses. Et il était tenté comme nous dans toutes choses sans commettre le péché. Et finalement, l'impact de l'incarnation. Quel impact ça devrait avoir dans notre vie? Mais la réponse, nous l'avons chantée, nous avons aussi vu ce matin, c'est venite adoremus, venez adorer, adorer. Ou bien, comme les mages ont dit, nous sommes venus pour l'adorer. Et j'aimerais pas, peut-être ce matin, vous savez, on parle des trois mages, des rois mages, mais ça, c'est la tradition. Rien dans le texte sacré nous dit qu'ils étaient rois ou qu'ils étaient trois, que leur nom était Balthazar, Gaspard ou Melchior, ou même encore que l'un d'eux était noir. Ça, c'est la tradition. Et je me rappelle souvent, j'ai joué le rôle d'un roi mage parce qu'on veut toujours avoir un noir dans la gang. Mais nous savons une chose, par exemple, ils étaient des adorateurs. Matthieu 2:11 nous dit ceci, quand ils ont vu le petit enfant, ils se prosternèrent et l'adorèrent. Et ça, c'est la réaction juste, correcte, devant tout ce que Dieu a fait pour nous à travers l'incarnation. C'est ce que Dieu attend de nous, ses enfants. Ça, c'est le but principal pour lequel Dieu nous a créés. Psaume 95:6 nous dit ceci, venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Et vous savez, souvent j'entends des gens dire, écoute, c'est bien beau, ça, adorer, 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 mais je suis quelqu'un qui est pratique. J'aime ça servir, j'aime ça agir, j'aime ça bouger. Mais je veux vous dire une chose. Vous pouvez servir Dieu sans vraiment l'adorer. Ça, c'est possible. On peut faire beaucoup de choses pour être vu. Je ne juge personne, mais c'est possible à cause de notre cœur. Juste avoir le spotlight, comme on dit en anglais, d'être vu et de recevoir les louanges des hommes. Mais je vais vous dire une chose, quelqu'un qui a un vrai cœur d'adorateur, ça va déboucher inévitablement sur un service qui est vrai et sincère. Jésus a dit ceci, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Tu y as mis justement l'adoration avant le service. Et que le Seigneur fasse de nous et moi des vrais adorateurs en esprit, en vérité, parce que ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Deuxième chose dans notre texte en Matthieu, c'est malheureux de voir que tout le monde n'a pas eu la même réaction. Le roi Hérode, le texte nous dit, il fut troublé. Et comment a-t-il réagi avec hostilité? Pourquoi est-ce qu'il a été troublé? J'aimerais vous suggérer qu'il voyait en Jésus une menace. Il ne pouvait pas supporter l'idée qu'il y avait un autre roi, plus grand que lui, et à qui il devrait être soumis. Et vous savez la suite, il a envoyé massacrer tous les enfants de 2 ans et au-dessus qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, dans le but d'éliminer celui qu'il considérait comme son rival. Et qu'en est-il pour les principaux sacrificateurs et les scribes? C'est comme les enfants à l'école, certains enfants à l'école, il y avait des bonnes réponses. La question, où est né le roi, où est le roi de Juifs qui vient de naître? Ça, c'est la question. Ah oui, je sais la réponse. À Bethléem, ils ont donné les réponses. Ils savaient exactement ce que la parole de Dieu dit. Mais est-ce qu'ils se sont déplacés? Est-ce qu'ils se sont dérangés pour aller voir ce roi et pour l'accueillir et pour l'adorer? Non. Pourquoi? Parce que pour eux, il y avait simplement une connaissance intellectuelle. Et cela n'a jamais descendu dans le cœur jusqu'au point de le déranger dans le quotidien. Oh oui, il est né là-bas et on sait où, le prophète a dit cela. Oh, c'est correct, ma vie a continué. Vous savez, ce matin, toute l'humanité est représentée par ces trois groupes. Les mages, ceux qui sont hostiles à l'Évangile et ceux qui sont indifférents. Et j'aimerais, en terminant, vous poser la question, dans quel groupe est-ce que vous trouvez? Peut-être ce matin, vous êtes ici. Vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus-Christ de façon personnelle. C'est peut-être que dans votre cœur, il y a un autre roi. Et ce roi, c'est vous-même. Vous ne voulez pas que cet homme règne sur vous. Il est possible aussi, comme les sacrificateurs et les scribes, vous entendez les beaux chants de Noël, vous les appréciez. Ça part d'un sauveur, un rédempteur, mais cela reste au niveau du cerveau. Et cela n'a jamais descendu au point de vous déranger dans votre quotidien. Mais ce matin, j'aimerais vous inviter, à travers justement ce que nous avons vu, les chants que nous avons chantés, de devenir les adorateurs de Dieu. Ça, c'est la réponse face à l'incarnation. Une attitude, toute autre attitude d'indifférence, d'hostilité, déshonore Dieu. C'est un pécheur, ça émane d'un cœur qui est torturé, méchant. Et ce matin, si vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus-Christ, Dieu vous appelle à la repentance. La Bible dit que Dieu annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand nous demandons pardon au Seigneur, nous confessons nos péchés, Dieu est juste et fidèle pour nous les pardonner. Et si quelqu'un, par un accent sincère de repentance et de foi dans le personnage du Saint-Seigneur Jésus-Christ, demande pardon, confesse ses péchés à Dieu, demande pardon, Dieu vous pardonnera. Et fera de vous un adorateur, comme ces mages. Et vous pouvez quitter ce lieu ce matin, avec ce beau chant sur vos lèvres. Venez, adorez. Et vous savez, un jour, on sera autour du trône de Dieu, dans l'éternité, en train d'adorer le Seigneur. Et c'est ma prière, c'est que ce soit aussi votre cas pour vous. Sinon, la Bible nous avertit. Ceux qui rejettent le Christ, comme Hérode a fait, comme les souverains sacrificateurs ont fait, c'est triste, mais leur part, c'est une éternité loin de la présence de Dieu, dans les souffrances éternelles. Ma prière pour vous, c'est qu'il n'en soit pas ainsi, mais que le Seigneur, par sa grâce, puisse vous donner justement un cœur d'adorateur, parce que vous aurez reçu le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. On va prier, puis après, il va y avoir un dernier chant. On ne peut pas finir Noël sans chanter, vous savez quoi? Je ne vous dirai pas, on ne peut pas vendre le scoop, mais il y a un beau chant qui s'en vient. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, quelle grâce, quelle bonté, quelle miséricorde que tu nous as témoigné en envoyant ton Fils dans ce monde, Seigneur, pour justement te glorifier tout d'abord et aussi pour régler notre problème de péché, de nous réconcilier avec toi. Ce matin, comme les mages, nous voulons tomber à genoux devant lui et le remercier. Et dire gloire soit rendue à Dieu pour son cadeau ineffable. Seigneur, parle au cœur aussi de ceux qui ne te connaissent pas, que tu puisses les attirer par ta bonté, par ta grâce, au pied de la croix, et qu'ils puissent connaître le Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Alors pendant ce temps des fêtes, pendant ce temps de Noël, Seigneur, que nous puissions apprécier de plus en plus qu'est-ce que tu as fait pour nous, que nous puissions te donner la vraie adoration de nos cœurs. Demandons ces grâces au nom de Jésus. Amen.